En 1972, l'archéologue Benjamin Matsar a organisé une fouille archéologique dans la partie sud du mont du Temple, à Jérusalem. Et il a fouillé les débris de la destruction du Temple de Jérusalem qui a été faite en l'an 70. Et parmi ces débris, ils ont trouvé en particulier un objet tout à fait intéressant. Il s'agit d'une pierre cubique, un petit bloc de pierre, que vous voyez d'ailleurs là sur l'écran. Un petit bloc de pierre qui n'est vraiment pas grand, il fait 5 à 6 cm de côté. Et il y a un côté qui est incurvé et qui est rainuré. En réalité, il s'agit là d'un cadran solaire. C'est le plus petit cadran solaire que l'on ait retrouvé dans les fouilles archéologiques. Très petit. Et il est particulièrement intéressant parce que ce cadran solaire a été retrouvé dans les débris du temple parce qu'il était employé dans le temple. Vous ne voyez là que la face. Sur l'envers de cette pierre se trouve un chandelier qui indique qu'il était utilisé dans le temple. Et à l'arrière de cette pierre, il y a deux tenons qui étaient destinés à être placés dans le temple à un endroit bien particulier, contre un mur par exemple, à un endroit qui avait été choisi d'une façon précise pour qu'il puisse donner la bonne heure, l'heure du temple. Et c'était utilisé par les prêtres pour connaître l'heure à laquelle il fallait faire les différentes réunions, les différents services dans le temple. Un tout petit cadran solaire. C'est un petit peu, si vous voulez, la swatch à l'avance, la swatch des sacrificateurs du temple, pour qu'ils aient leur montre de poche et qu'ils puissent savoir exactement à quelle heure ils devaient commencer le service du temple. La plus petite swatch inventée dans l'Antiquité. Et puis à côté de cela, on a les immenses cadrans solaires. Le plus grand que l'on ait enregistré, c'est celui qui a été construit par l'empereur Auguste en l'an 13 de notre ère. En fait, il l'a fait construire à Rome. Et ce cadran solaire géant a été fait avec un obélisque. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus, mais il est encore présent à Rome, où vous pouvez encore voir cet obélisque qui a servi à faire le plus grand cadran solaire du monde, en tout cas de l'époque, à Rome. Alors vous avez d'un côté le cadran solaire pour être à l'heure du temple de Jérusalem, et puis vous avez le cadran solaire pour être à l'heure de Rome. Un immense cadran solaire, comme si c'était un cadran solaire qui donne l'indication au monde entier de se mettre à l'heure de Rome. Par contre, le cadran solaire du Temple de Jérusalem, c'est un cadran solaire personnel que le prêtre peut mettre dans sa poche. Et nous sommes, nous aussi, aujourd'hui, des prêtres pour le Seigneur et invités, oh, sans doute pas à nous mettre à l'heure de Rome, mais à nous mettre à l'heure du Temple du Seigneur. Comment pouvons-nous être à l'heure du Temple du Seigneur? Sans aucun doute, il n'y a plus aujourd'hui de temple, mais alors, à l'heure de quel temple devons-nous mettre notre montre spirituelle à l'heure? À l'heure du Temple céleste. Et vous savez, en tant qu'être humain, nous avons un problème de décalage horaire avec Dieu. Parce que Dieu a son heure et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons la nôtre. Ce décalage horaire dû au péché fait que souvent, nous manquons les rendez-vous avec Dieu. Nous manquons d'entendre la voix de Dieu. Que ce soit parce que l'Église a un décalage horaire avec Dieu ou que ce soit parce que les individus sont en décalage horaire avec Dieu. Ils n'ont pas mis leur montre spirituelle à l'heure du sanctuaire céleste. C'est ainsi que nous pouvons manquer les rendez-vous avec Dieu. Et manquer un rendez-vous rappelle pour moi une histoire particulière que j'ai vécue il y a déjà pas mal d'années. J'étais à Cologne, j'étais élève, et mon beau-frère était venu pour différentes réunions. Il devait repartir de Genève, la ville distante d'une heure en voiture. Et il m'avait dit, voilà, je dois prendre le bus à Genève, à 7 heures. Alors j'avais fait mon petit calcul parce que c'était l'époque où la France changeait d'heure, mais pas la Suisse. Il fallait donc faire attention de ne pas se tromper. Je n'avais pas de voiture, donc j'ai demandé à un ami qui avait une voiture, est-ce que tu pourrais nous emmener à l'arrêt de bus qui est à Genève, une heure de voiture environ, un peu moins. Quand je lui ai dit à quelle heure il fallait se lever, il a beaucoup moins aimé ma proposition. Parce que j'avais fait mes petits calculs, donc je lui ai dit, il faudrait qu'on soit à 5 heures à l'arrêt de bus. Bon, mais pour être à 5 heures à l'arrêt de bus, il fallait partir à 4 et se lever un petit peu avant. Donc ça faisait tôt le matin, hein, même pour moi. Mais enfin, il l'a fait. On est parti à 5 heures, on était à l'arrêt de bus. Tout était fermé. Il n'y avait pas un chat. Et il pleuvait. Et il pleuvait fort. Alors on a regardé, on s'est demandé comment ça se faisait, qu'il n'y avait personne à l'arrêt de bus. Même le bureau était fermé. On a regardé les heures. Et on s'est rendu compte que j'avais fait le calcul dans le mauvais sens. Ce qui veut dire qu'on était là 2 heures à l'avance, sous la pluie, en ayant fait lever tout le monde avant 4 heures. Tout le monde m'a regardé en disant « t'as fait comment le calcul ?» Parce que mon ami qui nous avait conduit aurait volontiers dormi 2 heures de plus, et mon beau-frère se serait dispensé d'attendre 2 heures sous la pluie. Et moi, je me serais dispensé de me faire regarder de travers. On a toujours intérêt à être à l'heure, à la bonne heure, et d'éviter les décalages horaires, surtout avec le sanctuaire céleste. Ça nous évite de manquer les rendez-vous. Et vous connaissez ce passage dans l'évangile de Luc, où Jésus dit à son peuple, « Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et c'est dramatique que le peuple de Dieu ne connaisse pas le temps où il a été visité par Dieu parce qu'il n'est pas à l'heure de Dieu. Décalage horaire. Et c'est vrai, Dieu nous dit, vous êtes en décalage avec moi. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas être à l'heure du sanctuaire céleste. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, vous connaissez cette parole où il est dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Nous avons besoin de savoir que nous ne sommes pas par nature en harmonie avec Dieu. Cependant, nous sommes invités à ajuster notre montre spirituelle à l'horloge de Dieu. Prenez par exemple des livres d'histoire. Et dans l'autre main, vous prenez votre Bible. Et vos livres d'histoire vont vous parler de gens qui sont extrêmement importants dans l'histoire. Et vous prenez votre Bible. Et vous avez dans votre Bible des gens extrêmement importants dont les livres d'histoire ne disent pas un seul mot. 2 histoires, mais pas à la même heure. Les livres d'histoire vont vous parler de Hammurabi, un roi très important. Votre Bible va vous parler d'Abraham, un berger obscur du Proche-Orient. Les livres d'histoire vont vous parler d'Hatchepsout, une reine importante. Votre Bible va vous parler de Ruth. Vos livres d'histoire vont vous parler du pharaon Nécho, mais votre Bible va vous parler du prophète Élie. Vos livres d'histoire vont vous parler de Néfertiti, une reine que tout le monde doit connaître, mais votre Bible va vous parler d'Esther, dont les livres d'histoire ne parlent pas. On va vous parler d'un personnage que tout le monde doit connaître, Toutankhamon. Ces restes ont fait le tour du monde. Votre Bible va vous parler de Moïse. C'est un regard différent sur l'histoire, vous comprenez? Le regard des historiens, le regard des gens de ce monde qui vont mettre en évidence des personnages qui en fait n'ont aucune importance ou très peu, mais qui est très grande à leurs yeux. Mais d'un autre côté, la Bible va vous parler de personnages dont le rôle dans l'histoire est déterminant. Dans le regard de Dieu, mais que l'histoire et que les livres d'histoire que l'on lit à l'école oublient complètement. Être à l'heure de Dieu. L'histoire de Joseph, par exemple, nous donne cet aperçu de ce que représente être à l'heure de Dieu et pas à celle des hommes. Suivez avec moi cet exemple. Regardez dans le livre de la Genèse, au chapitre 40. Genèse chapitre 40, vous vous souvenez, Joseph a été vendu par ses frères. Joseph va être employé par un maître égyptien. Sa femme va le tromper, Joseph va être en prison. Et dans sa prison, il va rencontrer deux hommes dont il va expliquer les rêves. Et puis, il va leur dire ceci, c'est dans Genèse au chapitre 40, au verset 14, il s'adresse à l'échanson du roi qui va être libéré. Et il est dit, « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Et on lit quelques versets suivants. On arrive au verset 23, dans le même chapitre. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Ça, c'est le temps des hommes. Et Joseph a dû se demander à plusieurs reprises, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis vendu. Me voilà en prison. Qu'est-ce qui va m'arriver encore? Et il espère pouvoir sortir de là avec l'aide de ces gens qu'il a aidés. Eh bien non, son plan à lui ne fonctionne pas. Cependant, au chapitre 41, il nous est dit deux ans plus tard, il va falloir attendre 2 ans, le temps de Dieu, pour que les choses changent. Et vous vous souvenez que 2 ans plus tard, Pharaon a un rêve et qu'on va aller chercher Joseph pour le lui expliquer et que du jour au lendemain, Joseph, qui est en prison, se retrouve assis sur le trône du premier ministre de l'Égypte. Ça, c'était le temps de Dieu. Et puis, voilà que ses frères, ceux-là même qui l'ont vendu, viennent chercher à manger chez lui. Regardez quelques chapitres plus loin, au chapitre 45 du livre de la Genèse. Genèse chapitre 45, Joseph va retrouver ses frères, qui sont paniqués en découvrant que c'est lui qui domine sur toute l'Égypte. Ils espéraient qu'il ait disparu quelque part, dans un trou, esclave, tué. Non, non, pharaon d'Égypte, presque. Et Joseph va leur parler. Il va leur parler étant dans son cœur, à l'heure de Dieu. Genèse 45, verset 5 dit, « Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. » Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans ce pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ça, c'est être à l'heure de Dieu. Ses frères l'ont vendu. Il a été transporté dans un pays étranger comme esclave. Il a été battu, mis en prison. Non, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Ce n'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Tout va bien. Ça, c'est être à l'heure de Dieu. Jésus, de la même manière, est à l'heure de Dieu. Il en donne un exemple dans la façon dont il s'exprime dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Regardez ce texte avec moi. Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 10, au verset 17, il est écrit ceci. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Judas, trahison, flagellation, crucifixion. Jésus dit, non, on ne m'a pas mis à mort, je donne ma vie. C'est parce qu'il est à l'heure de Dieu. Et c'est sûr, lorsque nous sommes à l'heure de Dieu, les choses relatives à notre vie humaine paraissent vraiment stupides. Vous vous souvenez d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit dans la première épître aux Corinthiens, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Une folie. Allez donc dire aux autres là-dehors ce que vous croyez. Et vous allez voir sur leur visage ce sourire complaisant envers ceux qui sont bêtes et stupides de croire des choses pareilles. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais être à l'heure de Dieu va faire toute la différence. C'est pourquoi, quand je lis le texte que je vais vous lire, je comprends qu'être à l'heure de Dieu est absolument nécessaire pour moi en tant que chrétien. Écoutez ce passage. Il se trouve dans le livre Jésus-Christ à la page 211. Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu'il choisirait d'être conduit s'il pouvait voir la fin dès le commencement et discerner la gloire du dessein qu'ils accomplissent en tant qu'ouvriers avec lui. Si vous réfléchissez à cette parole, elle est extrêmement lourde de conséquences. Dieu ne conduit jamais ses enfants autrement qu'il choisirait d'être conduit s'il pouvait voir la fin dès le commencement. Autrement dit, tous ces malheurs qui me sont arrivés, toutes ces souffrances que j'ai dû endurer, en tant que croyant, si j'avais pu voir la fin dès le commencement, j'aurais fait le même choix que le choix que Dieu a fait pour ma vie. Et c'est là qu'apparaît tout d'un coup cette foi et cette confiance dans notre Dieu, qui fait pour nous des choix que nous ne comprenons pas parce que nous ne voyons pas la fin dès le commencement. Nous ne voyons finalement que le présent, et le présent nous fait crier « Au secours, Seigneur !» Mais si nous pouvions voir la fin dès le commencement, nous ferions exactement le même choix, mais sans grogner, n'est-ce pas? Parce que nous aurions vu pourquoi. Un jour, le Seigneur nous fera la grâce de voir pourquoi. Et c'est cette invitation à être par la foi à l'heure de Dieu. Maintenant, être à l'heure du sanctuaire céleste, c'est savoir ce qui se passe dans le sanctuaire céleste. Certains chrétiens dans le passé se seraient évité beaucoup de déceptions et de souffrances s'ils avaient été à l'heure du sanctuaire céleste. Mais je crois que nous qui vivons 150 ans plus tard avons encore davantage besoin d'être à l'heure du sanctuaire céleste. Mais pour ça, il faut savoir ce qui s'y passe. Alors, nous avons une vague idée de ce qui s'y passe. Nous pensons par exemple à ce texte de l'Épître aux Romains au chapitre 8 où il est dit « Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous ». Et nous sommes conscients que Jésus, vivant dans le ciel, intercède pour nous. Dans notre esprit, il intercède en présentant son sacrifice, ses mérites à lui, pour que nous puissions être sauvés, pardonnés, et c'est juste. Mais il se passe plus que ça dans le ciel aujourd'hui. Le fait que nous sommes dans la fin des temps fait qu'au ciel, il se passe beaucoup de choses. L'activité dans le ciel est intense. Alors j'aimerais partager avec vous un extrait d'un chapitre qui se trouve dans le livre Premiers Écrits à partir de la page 55. C'est un paragraphe un peu plus long, mais suivez ceci avec moi. C'est en fait un commentaire de ce qui se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 8 et dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Écoutez ceci. Devant le trône, je vis deux groupes. L'un était incliné devant le trône, profondément intéressé. L'autre semblait indifférent. Jésus se leva de son trône et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levèrent avec lui. Puis Jésus fut conduit au lieu très saint où le Père était assis. Là, je contemplais Jésus, souverain sacrificateur, se tenant devant le Père. Jésus alors souffla sur eux le Saint-Esprit. Dans ce souffle, il y avait de la lumière, de la puissance, beaucoup d'amour, de joie et de paix. Je me tournai pour voir le groupe qui était resté incliné devant le trône. Ceux-là ne savaient pas que Jésus l'avait quitté. Satan apparut près du trône, essayant de faire l'œuvre de Dieu. Je les vis qui regardaient vers le trône et priaient « Père, donne-nous ton esprit ». Satan soufflait alors sur eux une influence maléfique, où il y avait de la lumière, beaucoup de puissance, mais pas d'amour, ni de joie, ni de paix. on peut se tourner vers le sanctuaire et ne pas être à l'heure du sanctuaire et avoir la surprise de découvrir un jour que parfois, ne pas être à l'heure de Dieu, c'est être à l'heure du diable. Alors, dans ce passage, je trouve quelque chose d'extrêmement intéressant. Jésus est là, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, et je sais qu'il intercède pour moi. Mais je sais aussi, par le livre du prophète Daniel, qu'il est occupé à juger le monde. Et ça, c'est bonne nouvelle, parce que le jugement, c'est la réhabilitation des enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. C'est sûr, c'est aussi la condamnation de ceux qui n'ont pas Jésus comme leur sauveur. Mais il se passe encore autre chose dans le lieu très saint du sanctuaire où Jésus intercède. Il intercède pour que Dieu accorde son esprit à son Église. Et ça, vous vous en souvenez, c'est une promesse. Regardez dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, ce que Jésus dit à ses disciples. Évangile de Jean, chapitre 14, au verset 18, il est écrit ceci. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et un petit peu plus loin, au verset 23, il dit la même chose dans des termes différents. Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Jésus est en train de dire que le Père et le Fils veulent demeurer en chacun d'entre nous par l'action du Saint-Esprit. Mais regardez ce qu'il dit un petit peu plus haut au verset 16. « Moi, dit Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est ce qu'on a lu dans le texte précédent. Jésus, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, juge le monde et ses enfants. Et c'est vrai qu'il intercède présentant le bénéfice de son sacrifice pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons pardonnés. Mais il fait encore une chose extrêmement importante. Il plaide auprès de Dieu pour que Dieu nous accorde son esprit dans une mesure suffisante pour faire face au temps dans lequel nous vivons. L'apôtre Paul avait exprimé ça dans une formule très courte, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er. Il dit au verset 27, « Christ en vous, espérance de la gloire. » Christ en vous. Mais comment donc Christ est-il en moi? Comment est-il en chacun d'entre nous? Si ce n'est par l'action de son esprit, pour lequel Jésus plaide que Dieu nous l'accorde en abondance. Et ce n'est pas que Dieu n'est pas prêt à nous le donner, c'est que nous ne sommes pas en réalité prêts à le recevoir parce que probablement nous ne sommes pas à l'heure du sanctuaire céleste. Être à l'heure du sanctuaire céleste, c'est savoir ce qui s'y passe et être ouvert pour que ce qui se passe dans le sanctuaire céleste, nous puissions en bénéficier pleinement aujourd'hui. Bénéficier pleinement du jugement de Dieu qui réhabilite ses enfants. Bénéficier pleinement de l'intercession de Jésus qui offre son sacrifice pour que nous soyons sauvés. Bénéficier pleinement de l'intercession de Jésus qui demande à Dieu, donne-leur ton esprit. Seulement voilà, peut-être que nous ne sommes pas prêts parce que nous n'avons pas mis notre montre spirituelle à l'heure du sanctuaire céleste. Et c'est vrai que je me lamente parfois, et je suis sûr que vous êtes lamenté vous aussi, de voir de si pauvres résultats pour le travail de l'évangélisation autour de nous. Est-ce que ce sont nos bons trucs qui vont faire la différence? Est-ce que c'est nos super prospectus qui vont faire la différence? Mais alors, pourquoi est-ce que dans certains endroits du monde, l'évangile progresse? Et que dans d'autres, on a l'impression qu'il n'avance pas. Est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi? Et c'est vrai, nous avons toutes sortes de réponses qui font partie du problème, j'en conviens. Mais ce n'est ni par les puissances, ni par la force. C'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et puis, est-ce que vous ne vous êtes pas comme moi lamenté sur les progrès lents, terriblement lents, dans le développement de votre caractère. Quelqu'un ne m'a pas salué sabbat, alors je suis très offensé. L'Église ne fait pas ce que je lui avais dit de dire, alors je suis très découragé. On ne m'a pas consulté pour tel programme de l'Église, je suis vexé. Un diacre a osé me faire une remarque. Je suis découragé, je ne viens plus à l'Église. Et vous pouvez à volonté rajouter les symptômes de ce caractère que nous reconnaissons être mauvais, qui n'est pas encore transformé comme on aurait voulu. Je peux faire ma propre liste, faites donc la vôtre, et si vous n'y arrivez pas, demandez donc à votre mari ou à votre femme, il sera capable de la faire et de le faire pour vous. Mais alors, c'est peut-être une indication que je ne suis pas encore vraiment pleinement à l'heure du sanctuaire céleste. Que je n'ai pas pris mon petit cadran solaire et que je l'ai mis pour être à l'heure du temple. Écoutez cette phrase, elle est tirée du livre « Prophètes et rois » à la page 176. La transformation du caractère est pour le monde un témoignage de la présence de Christ en nous. L'Esprit de Dieu crée dans l'âme une vie nouvelle qui harmonise les pensées et les désirs avec la volonté du Christ. L'homme intérieur retrouve l'image de Dieu. La transformation du caractère est pour le monde le témoignage de la présence de Christ en nous. Alors je me dis, voilà, c'est vrai, nous sommes occupés à faire le bien et nous pensons que nous devons nous éduquer à faire le bien et c'est juste. Mais est-ce que ce n'est pas là un relent de salut par les œuvres quelque part ? Parce que ce que Dieu veut pour que nous soyons prêts à son retour, c'est que notre caractère soit changé. Et je me lamente aussi de ce que ça n'avance pas plus vite que ça pour moi. Peut-être qu'il va falloir que j'ajuste ma montre à l'heure du sanctuaire céleste, où Jésus plaide le Père pour qu'il donne son esprit, mais pourvu que je sois prêt à le recevoir. Et je comprends. Je comprends qu'il n'y aura pas de vrai réveil de la véritable piété sans une prière de son Église demandant à Dieu avec insistance son esprit, parce que ce sera l'indication que l'Église en ressent le besoin et qu'elle le crie à Dieu. Être à l'heure du sanctuaire, c'est comprendre que Jésus ne veut pas simplement travailler par moi dans le monde pour inviter tous ceux qui le veulent à venir dans l'Église. Le Seigneur, par son esprit, veut aussi travailler en moi. Et j'admets qu'il y a là encore un grand travail à faire. Être à l'heure du temple, c'est en réalité ne pas être à l'heure de la culture environnante. C'est malheureusement ne pas être en harmonie avec les idées, avec les pratiques, avec les divertissements, avec ce qu'il y a dans notre culture d'aujourd'hui. On ne peut pas être à l'heure du monde et à l'heure de Dieu en même temps. Il va falloir choisir à quelle heure nous allons mettre notre montre. Être à l'heure du temple, c'est savoir ce qui se passe dans ce temple. Et aujourd'hui, nous avons le moyen de voir dans ce temple, par le livre de l'Apocalypse en particulier. On a lu tout à l'heure un passage, j'aimerais reprendre dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 11, où il est question là de temps. Et je crois que Dieu a dans le ciel une horloge précise pour chaque chose. Et chaque chose arrive en son temps. Regardez dans Apocalypse au chapitre 11, au verset 18, il est dit « Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les grands et les petits, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » L'Apocalypse entr'ouvre le voile pour nous faire voir ce qui se passe et ce qui va se passer dans le sanctuaire céleste. Si nous ne sommes pas à l'heure du sanctuaire céleste, ne pensez-vous pas que nous allons louper des choses importantes de ce qui va se passer sur la terre ? Mais par-dessus tout, je risque de louper une des choses primordiales que Dieu, par Jésus-Christ, veut faire en moi, via l'action de son Saint-Esprit, changer mon caractère pour que je sois prêt quand Jésus revient. Mettez vos montres à l'heure, s'il vous plaît. Amen.